إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، على شرح الشيخ سليمان القصيري حفظه الله تعالى. ومزلنا في كتاب الحدود، كتاب الحدود. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. إن عاد يعني سارق، طيب يعني تكررت سرقته، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. أخرجه دارقطني وقال الزيلعي في نصب راية في سنده الواقدي، وفيه مقال، انتهى كلامه. فالحديث ضعيف. وقال ابن قدامة في المغني: هو قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولأنه في المحاربة الموجبة قطع العضوين إنما تقطع يده ورجله ولا تقطع يداه، وتقطع رجل من مفصل الكعب وهو نهاية الساق من الأسفل. رحمك الله. قال ابن قدامة في المغني: وتقطع الرجل من مفصل الكعب في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. انتهى كلامه. طيب، نوكو بورسوي بإذن الله l'explication du livre منهج السالكين de l'imam السعدي رحمه الله. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant les peines légales. Il dit ici l'auteur رحمه الله تعالى, donc on est toujours sur la peine légale concernant le vol, d'accord, à l'encontre du voleur. Et on a vu donc, lorsque la personne a commis un vol avéré, et on a détaillé la semaine dernière, Naam, les conditions qui font que le vol en question, yani, pourra donc entraîner la peine qui est le fait de se faire couper la main droite, hein, à partir du poignet. Yani, on a vu, alhamdoulilah, les conditions qui suscitent cette sanction. Il dit l'auteur ici, rahimallah, fa'in aada, et si il recommence, yani, si une fois yani, qu'on lui a appliqué cette peine légale, et que l'auteur de ce vol yani, réitère et se fait attraper encore yani, après avoir volé quelque chose qui mérite cette peine légale. Il dit l'auteur ici, rahimahullah, on lui coupera le pied gauche. On lui tranchera le pied gauche à partir donc de la cheville, au niveau de la cheville, wahusimet, et on arrêtera l'hémorragie de la même manière que on a utilisé pour la main. D'accord ? C'est bon ? Donc il dit, c'est le Cheikh Sulayman hafidhahullah, et cela en vertu du hadith d'Abi Huraira, qui remonterait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on verra que le hadith il est faible, dans lequel donc il aurait dit, lorsque le voleur a volé, coupez-lui sa main, et s'il recommence, coupez-lui son pied, s'il recommence, coupez-lui sa main, et s'il recommence, coupez-lui son pied. Donc le hadith rapporté par Ad-Darqutni ainsi que Az-Zaylai Et il y a dans la chaîne de transmission un certain Al-Waqidi sur lequel donc il y a des critiques, d'accord? Donc le hadith il est faible. Quoi qu'il en soit, par rapport au fait que on coupe le pied gauche du voleur, concernant ce jugement, il dit l'imam Ibn Qudama dans Al-Mughni, ceci est la parole de certains parmi les juristes et les savants de la jurisprudence, ainsi que des savants du hadith parmi les compagnons et parmi les tabi'in et ceux qui sont venus après eux. Et c'est également la parole de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma, car en temps de guerre, lorsque il y avait des sanctions qui devaient être appliquées et provoquer donc le fait de couper deux membres, eh bien c'est la main et le pied qui étaient coupés et on ne coupait pas les deux mains. D'accord? Yani, en temps de guerre, les deux mains n'étaient pas coupées, mais étaient coupées une main et un pied. D'accord? Naam. Et donc, dans ce cas-là, lorsque le voleur va recommettre encore ce crime, ce délit, eh bien, on va couper le pied au niveau de la cheville, et cela est l'avis de la majorité des savants, et cela a été donc appliqué par le compagnon Omar, radiyallahu anhu. C'est bon? C'est clair ou pas? ثم قال رحمه الله فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل أي لا يقطع من السارق الذي تكررت سرقته غير يد ورجل لحديث عبد الرحمن بن عائذ قال أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وعيد الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال فاستودعه السجن أخرجه البيهقي وأخرجه البيهقي أيضا أن عليا أتي بالسارق قد قطع يده ورجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسه وبأي شيء يأكل ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي الله ثم ضربه وخلد السجن طيب فيجي l'auteur ici رحمه الله تعالى et si l'auteur du vol recommence encore une fois qu'on lui a coupé la main droite il a recommencé on lui a coupé le pied gauche, et il a recommencé encore. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, l'auteur ici, on le met en prison. On le met en prison et on ne lui coupe yani, pas la seconde main ni le second pied. D'accord? Donc il dit, le Cheikh Sulayman, hafidhahullah ta'ala, donc on ne coupe pas le voleur qui a revolé donc une troisième fois, yani, alors qu'on lui a déjà coupé la main droite ainsi que le pied gauche. Et cela en vertu du hadith d'Abd al-Rahman ibn A'ad qui a dit « On amena auprès de Omar un homme qui avait déjà la main et le pied coupés et qui avait encore volé. » Alors, Omar d'ordonner qu'on lui coupe son second pied. Et là, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, de dire que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, yani dans la sourate Al-Ma'ida, dans le verset 33, dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: l'unique rétribution de ceux qui combattent Allah et son messager et qui sèment le désordre sur terre est qu'ils soient exécutés ou crucifiés ou amputés d'une main et du pied opposé ou bannis de cette contrée. Donc, il a dit à Omar, radiallahu anhu, que cet homme, on lui avait déjà coupé donc une main et un pied. Et donc, il ne faut pas que tu lui coupes son second pied, que tu le laisses sans rien pour pouvoir se déplacer et marcher. D'accord? S'il n'a plus ses pieds, il ne pourra plus se déplacer. Donc, soit il lui a dit, soit tu le punis par une autre punition que celle-là, ou soit tu le mets en prison. D'accord? Soit tu le mets en prison. Puis il dit ici que Omar l'a mis en prison. Donc, le hadith rapporté par Al-Bayhaqi, Tayyib, Al-Bayhaqi qui a dit également que Ali, on lui a amené également quelqu'un qui avait volé, qui avait donc la main et le pied coupés également, et ensuite on le fait venir. Et Ali, il a dit: vais-je te couper la main? Et si je te coupe la main, comment feras-tu pour manger? Comment feras-tu pour toucher telle ou telle chose? Ensuite, il dit: vais-je te couper le pied? Mais ensuite, comment feras-tu pour marcher? Sur quoi marcheras-tu? Puis il dit: certes, j'ai honte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a frappé et il a mis en prison. D'accord? Il a frappé la personne. D'accord? Il a puni en le frappant et il le mit en prison. Et donc, on voit ici qu'il ne lui a pas coupé la main et le pied qui lui restaient. C'est bon? Wadah? الحمد لله. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أو أيديهما عفوا. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. سورة المائدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. طيب. Puis dit l'auteur, c'est rahimahullah ta'ala, qu'Allah jalla wa ala, dans le sens rapproché du verset de la sourate Al-Ma'ida, il dit: du voleur et de la voleuse, coupez la main en rétribution de leur forfait, telle est la peine dissuasive prescrite par Allah tabarak wa ta'ala. Également le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aisha radiallahu anha, donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne coupe pas la main du voleur si ce n'est s'il a volé, yani, l'équivalent d'un quart de dinar et plus. Hein, on a vu cela déjà dans le dernier cours. C'est bon? Clair? Voilà. طيب. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رافع بن خديج، وقال ابن حجر في التلخيص: واختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. والثمر هو ثمر الأشجار كالتمر والعنب، والكثر هو الجمار، والجمار هو الأبيض الذي يكون في قلب النخلة. فإذا سرق الشخص ثمر أو كثر من بستان فإنه لا قطع عليه، لأن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، وعلى السارق ضمان ما أخذه. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne coupe pas la main, la qata'a. Il n'y a pas de peine légale du fait de couper la main, dans ce qu'on appelle al-thamar et al-kathar. Al-thamar ou al-kathar. Donc ce hadith rapporté par les gens des Sunan. Donc, rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Numaja, selon Rafi ibn Khadij. Il dit Ibn Hajar, dans son livre Talkhis, que les savants ont divergé, les savants du hadith, ont divergé sur ce hadith, notamment est-ce que il a une chaîne de transmission qui est continue, ou au contraire qui est interrompue, ou dans laquelle il manquerait donc la personne entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, il dit ce hadith, donc malgré ça, ce hadith, les savants, yani, se sont transmis ce hadith et l'ont accepté, alhamdulillah. Donc, al-Thamar, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne coupe pas la main pour deux choses, al-Thamar ou al-Kathar. C'est quoi al-Thamar? Al-Thamar, ce sont les fruits que l'on trouve sur les arbres, d'accord? Tels que les dattes, yani le raisin et autres. D'accord? Est-ce que c'est bon? Et al-kathar, c'est la sève des palmiers. Ce qu'on trouve donc à l'intérieur, dans le cœur du palmier, hein, et de couleur blanche, yani c'est al-jammar, donc la sève du palmier. Tayyib. Donc si la personne vole un de ses fruits qui est donc sur l'arbre, ou cette sève qui est dans le cœur du palmier, il le prend d'un jardin. D'accord? Qui ne lui appartient pas. Un jardin qui ne lui appartient pas. Donc, si on l'attrape, eh bien, on ne lui coupera pas la main. Par rapport à ce hadith. Par rapport à ce hadith. Car fait partie des conditions que l'on applique cette peine légale sur la personne, on a vu déjà, al-hirs. Il faut que la chose qui ait été volée, ait été entreposée et stockée dans un endroit qui a servi justement à préserver, à protéger cette chose-là. Donc ce fruit-là était encore sur l'arbre. Il n'était pas dans un grenier ou un silo ou un fruitier. Il était encore sur l'arbre. Ainsi que la sève était dans l'arbre. D'accord? C'est pour cela que, donc, pour Thamar et Al-Kathar, ils ne sont pas entreposés et stockés dans un endroit de protection contre les voleurs. Et donc, le voleur, on ne lui coupera pas la main, mais il devra bien sûr verser et annuler le prix et un dédommagement yani, par rapport à ce qu'il a pris. C'est bon? Taïb. Alhamdulillah. قال الشيخ سليمان حفظه الله ويستثنى من ذلك لو دخل محتاج إلى الأكل بستانا ليس عليه حائط أو شباك ونحو فأكل ولم يحمل معه شيئا فلا شيء عليه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق يعني فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يعويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي مختصرا فلم يذكر فيه السرقة وقال حديث حسن. طيب. Et donc pour finir, l'exception donc ici va concerner celui qui est entré et qui est dans la nécessité de manger. Il doit manger. D'accord? Il est entré dans un jardin qui n'a pas de mur autour. Un jardin qui n'est pas entouré de murs, ni de clôture ou autre. D'accord? Et il va manger de ce jardin. Mais il ne va rien prendre avec lui. Il va juste manger. Il va cueillir et manger de ce jardin-là, sans rien prendre avec lui en sortant de ce jardin. Eh bien, lui, il n'aura rien. Il n'aura rien à... il n'aura pas de péché. Fala sha'alay. D'accord? Et c'est là par rapport au hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur les fruits qui sont encore dans leurs arbres. D'accord? Les fruits qui sont dans leurs arbres. Taïm. Naam. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a mangé alors qu'il était dans le besoin, il avait faim, d'accord, il devait manger, et il a mangé donc l'un de ses fruits sans rien emporter avec lui dans ses habits. Taïeb, et celui qui est sorti, alors que celui qui est sorti avec une chose, qui a pris de ses fruits et qui est sorti avec, d'accord, eh bien il devra payer deux fois son prix, il devra rembourser deux fois son prix et il devra être puni. D'accord? Taïeb. Et celui qui a volé quelque chose, après que les fruits aient été donc cueillis de leurs arbres, taïeb, et entreposés dans ce qu'on appelle un fruitier, un endroit où on conserve les fruits, ou un silo, ou un grenier, ou toutes sortes d'endroits qui servent à entreposer et stocker ses fruits et les protéger, eh bien, s'il a volé de ces choses, de ces fruits, de la valeur, yani, d'un mijen, d'un bouclier, et qui est le quart, comme l'ont expliqué les savants, le quart d'un dinar, comme on l'a vu la fois dernière, eh bien, lui, on pourra appliquer la peine légale sur cette personne. Donc, le hadith rapporté par Abu Daoud, ainsi qu'An-Nasa'i ibn Majah, et At-Tirmidhi, de façon résumée, sans que les détails sur le vol aient été mentionnés. Et il dit, c'est un hadith qui est bon. C'est un hadith qui est hassan. Tayyib. Alhamdulillah. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Naktafi bihadal qadr, inshallah. Wa l'ilmu inda Allah, akhiru da'wana. Ani alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa sallam atslima. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.